Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, les Chemins de la Philosophie vous proposent des émissions spéciales cinéma et philosophie. Troisième temps aujourd'hui, Certains l'aiment chaud, de Billy Wilder. Hey, you know what? Les nouveaux chemins qui jouent du jazz hot tous les jours en compagnie de Samuel Legendre, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chasseur, Antoine Ravon et Tristan Grenassia, à la réalisation de contrebasses criblées de balles. Cette semaine, Nicolas Berger, à la lecture déguisée en millionnaire Georges Kless, avec aujourd'hui à la prise de son le pianiste de jazz Alexandre Dang. À 10h51, vous retrouverez Géraldine ou Daphné Mosna-Savoie, c'est selon, pour ses deux minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui « Qu'est-ce que la politique » d'Anna Arendt, publiée au Seuil. J'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Marc Serivello qui vient se déguiser pour vous en direct pour habiter les personnages délirants de Certains l'aiment chaud de Billy Wilder. Bonjour Marc Serivello.
Bonjour Adèle Van Rett.
Imaginez certains personnages dans une certaine situation. Vous obtiendrez une scène comique en faisant que la situation se retourne et que les rôles soient intervertis. C'est ainsi que nous rions du prévenu qui fait de la morale au juge, de l'enfant qui prétend donner des leçons à ses parents, enfin de ce qui vient se classer sous la rubrique du « monde renversé ». Souvent, on nous présentera un personnage qui prépare les filets où il viendra lui-même se faire prendre. L'histoire du persécuteur victime de sa persécution, du dupeur dupé, fait le fond de bien des comédies. Il s'agit toujours au fond d'une interversion des rôles et d'une situation qui se retourne contre celui qui l'a créée. Ici, se vérifierait une loi. Quand une scène comique a été souvent reproduite, elle passe à l'état de catégorie ou de modèle et vient se classer dans un genre où figure un type de comique officiellement reconnu.
Good evening, sir. I'm Mr. Mozzarella. What can I do for you?
I come to the old lady's funeral.
Je n'ai pas l'impression de vous avoir déjà vu à nos enterrements.
On m'a défendu la bière.
Mon Dieu.
Où a lieu la veillée mortuaire? Je suis croque-mort de mon métier.
Veuillez l'accompagner à la chapelle, prie Dieu numéro 3.
Oui, monsieur Mozzarella, par ici. Ah, c'est pas trop triste de quitter la vie comme ça.
Veuillez me suivre. Que prendra, monsieur?
Du whisky.
Désolé, nous ne servons que du café.
Du café?
Du scotch café, du Canadian Club café ou du maro café?
Du scotch. Servez-moi une bonne tasse avec du soda à côté. Une minute. Vous n'avez pas un autre prix Dieu un peu moins près de l'orchestre? Celui-ci m'irait tout à fait.
Désolé, mais c'est réservé aux membres très proches de la famille.
Apportez-moi l'addition au cas où il y aurait une descente.
Qui oserait déranger des obsèques?
Tout le monde n'a pas le respect des morts.
Marc Serizuelo, Certains l'aiment chaud de Billy Wilder commence par une inversion des genres, une interversion, disait Bergson dans le texte que j'ai lu, tiré du rire. Mais ce n'est pas la version des genres que l'on attend, c'est d'abord le genre, disons, cinématographique du film noir qui se transforme en comédie.
Absolument, et vous avez bien fait. On peut toujours préférer la version originale, mais la version française est signée Raymond Queneau. Et donc, ce qu'on entend en plus du film de Billy Wilder, un texte savoureux, surtout dans cette première séquence d'ailleurs, avec donc cette idée où nous commençons à Chicago en 1929, et après une poursuite effectivement un petit peu hot au début, nous avons du jazz hot en passant par l'intermédiaire effectivement funèbre de la boutique de Monsieur Mozzarella qui est supposé être effectivement un entrepreneur de pompes funèbres. Et là effectivement tout se joue en double talk, hein, donc on est supposé entrer et participer à une veillée funèbre. Et effectivement, c'est un speakeasy à l'époque de la Prohibition. Et tout se joue là encore sur... Et c'est très bon en version française d'ailleurs. Donc c'est pas simplement un banc comme dans le texte anglais, mais c'est un prie-dieu. Très bonne idée encore une fois du traducteur. Et tout, tout se joue autour de la chapelle et de cette religiosité tout à fait inversée du temps du jazz hot.
Il faut dire que le film commence avec la sirène qui a ouvert cette émission, une espèce de course-poursuite dans un corbillard. On voit des personnes qui sont autour d'un cercueil. Il y a un très beau plan de caméra où on voit les deux personnes à l'avant du corbillard, puis les deux personnes à l'arrière qui tournent le visage vers l'arrière du véhicule. On soulève un rideau et on voit qu'ils sont en train de se faire courser. Là, ils sortent des flingues, tout simplement, du toit du corbillard. Ils cassent la vitre et ils leur tirent dessus. Ça commence, là, voilà, comme un film noir. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, avant même qu'on arrive dans le speakeasy, que, alors qu'ils se font tirer dessus, de l'eau, un liquide coule du cercueil. Et on voit qu'en fait, il y avait des bouteilles d'alcool dedans.
Voilà, et que c'était le moment, effectivement, de la prohibition. C'est une excellente idée de Billy Wilder, parce que le film, en fait, c'est la troisième version du même mythe. Hein. Donc il y a eu Fanfare d'amour en français, film français de 1935, assez difficile à voir. Richard Poitier, c'est un film avec Fernand Gravé, Pierre Larquet, Betty Stockfeld, Julien Carrette. C'est un film intéressant. Et celui que l'on peut voir davantage, mais assez difficilement quand même, c'est le film allemand d'Hoffmann de 1951, qui s'appelle Fanfare d'amour également, Fanfare der Liebe. Et c'est certainement celui-ci qui a servi de modèle à Billy Wilder. Mais la belle idée, c'est effectivement de transporter ce thème des musiciens au chômage, c'est quand même des fictions de la crise au départ, mais de le transporter effectivement dans le cadre de la prohibition et de Chicago dans ces années-là, de Chicago et de la Floride, puisque c'est la grande époque également de la Floride, Palm Beach, etc.
Bergson définit l'interversion comme étant un des ressorts comiques par excellence, à savoir qu'on attend qu'un personnage joue un rôle et il va jouer le rôle inverse, c'est le condamné qui fait la morale au juge, l'enfant qui donne des leçons à ses parents. Ce procédé-là de l'inversion et de l'interversion, Wilder le connaît bien avant même certains Lame Show, il sait s'en servir.
C'est tout à fait l'inversion en ce sens-là, c'est réellement la grande figure des films de Billy Wilder avant et après certains Lame Show. On pourrait citer énormément d'exemples qui montrent qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que les apparences sont trompeuses et qu'on aime prendre plaisir à être trompé. Par ce que l'on voit. Et dans un de ses tout derniers films, Fedora, l'avant-dernier film de Billy Wilder, une actrice est remplacée par sa fille qui lui ressemble comme deux coups d'eau quand elle était jeune. Et on croit que cette actrice est toujours jeune. Elle porte des gants. On pense que ses gants cachent la vieillesse. Non, au contraire, ses gants cachent la jeunesse. Puisque c'est une jeune femme qui a pris la place, encore une fois, de sa propre mère. Dans La vie privée de Sherlock Holmes, qui est un film de 1970, tout se joue sur ses apparences trompeuses, y compris d'ailleurs, et on retrouve le thème, on va du genre au gender dès le début du film, puisque pour se sortir d'un mauvais pas, il est pris par des Russes qui veulent absolument qu'il fasse un enfant à une grande danseuse du type Petrova, et pour s'en sortir, il feint de vivre depuis de nombreuses années avec un autre homme, Watson. Et c'est cette façon de concevoir donc l'homosexualité feinte qui donne un des moments les plus délicieux du film avec les danseuses qui sont autour de Watson et qui s'amusent avec lui sont peu à peu remplacées. C'est une séquence muette qui est fondée sur la rumeur de l'homosexualité de Watson. Et petit à petit, chaque danseuse est remplacée par un magnifique danseur russe du corps de ballet. Et à la fin de la séquence tout en musique, on a Watson avec tous ses garçons en train de danser. Et la fleur de l'hubris qui est au coin de la lèvre. Et là, il s'aperçoit au bout d'un moment, Watson, que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y aura une scène de ménage au retour à Baker Street, où là, effectivement, Holmes avait prévu, évidemment, parce qu'il est très intelligent, la réaction furibarde de son partenaire, qui n'est pas tout à fait son partenaire sexuel.
What's the matter now?
How do they walk in these things, huh? How do they keep their balance?
It must be the way the weight is distributed now. Come on.
Look at that. Look how she moves. That's just like Jell-O on springs. Must have some sort of built-in motor or something. I tell you, it's a whole different sex. What are you afraid of? Nobody's asking you to have a baby.
Well, here we are.
Are you two from the Polyakov Agency?
Yes, we're the new girls.
Brand new.
All aboard.
You're in berth 7 and 7A.
Up the daisy. Fresh.
Looks like Polyakov came through with a couple of real ladies.
You better tell the other girls to watch their language.
L'inversion chez Wilder ne se réduit pas à un renversement de situation, mais passe aussi par un bouleversement des catégories. Ici, pour la première fois dans le film, on voit les deux personnages principaux, masculins, être déguisés en filles. Ils se déguisent pour pouvoir avoir un travail, tout simplement. Participer à un orchestre uniquement composé de filles, comme l'un joue de la contrebasse et l'autre du saxophone. Ils se font passer pour deux personnages féminins, Daphne ou Geraldine et Josephine. On les entend dire cette phrase, parce qu'ils sont en train de marcher avec des talons hauts, c'est très inconfortable, ce qui, là aussi, est l'occasion d'un plan de Wilder magnifique, où il filme les mollets masculins dans des escarpins sur le quai de la gare. En se retournant, ils voient Marilyn Monroe, rien de moins, et ils disent, bah, it's a totally different sex. C'est vraiment, c'est pas simplement que c'est un autre sexe, c'est un sexe qui n'a rien à voir avec le nôtre. Là, on est dans l'inversion, la prise en compte, l'incarnation d'une inversion physique. Marc Serigello.
Oui, c'est le moment peut-être un des moments les plus intéressants du film en effet, parce que on les voit, ils sont en drague, hein, puisque c'est le mot anglais qui court dans l'histoire du musical et du spectacle, y compris cinématographique, en Angleterre et aux États-Unis. Et donc ils sont grotesques, c'est le côté jambes poilues. Enfin là, ils sont un peu mieux que ça quand même, hein, mais il y a quand même, c'est souvent cela quand même, on rit. Ce qui fait rire, c'est effectivement que les attributs de la féminité ne sont pas du tout à leur place, puisqu'à leur place il y a justement des jambes poilues, des bras musclés, un
mais
visage.
Mais ils sont très élégants.
Mais
hein.
Eux, voilà. Alors, c'est ce qui est très intéressant chez Billy Wilder et Tony Curtis est très réussi. Hein. C'est une très. Il y a les deux dans chacune des versions du film. D'ailleurs, on a dans le film allemand, on voit bien qu'il y a un type sérieux et un grotesque. Il y a toujours effectivement. Et c'est un petit peu la même chose ici. Mais c'est Hollywood permet d'avoir effectivement, grâce à ces deux acteurs tout à fait étonnants,
Jack Lemmon et Tony Curtis.
Mais effectivement, ça permet aussi d'avoir l'apparition de Marilyn dans sa robe noire et effectivement avec la façon dont elle fait swinger ses attributs en marchant sur le quai de la gare, c'est tout à fait différent. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est la première prise de conscience. C'est toujours Jack Lemmon, hein, c'est toujours Jerry qui est celui qui formalise tout cela, hein. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, parce que c'est celui qui sera bien évidemment, c'est le sujet de la comédie, c'est celui qui finira par épouser un milliardaire.
Voilà, parce qu'on va être obligé forcément de parler de la fin. Avant d'y venir, on disait que ces deux hommes déguisés en femmes étaient extrêmement élégantes. Et c'est là où Wilder est très fort, parce que l'inversion des sexes ne se contente pas de revêtir les apparats du genre, mais c'est aussi une inversion quasiment sociale. C'est que ces deux femmes qui arrivent, ces deux hommes déguisés en femmes, vont paraître aux yeux de celles qui s'occupent du groupe, de l'orchestre lui-même, comme venant d'une classe sociale supérieure.
Absolument.
Et ils vont dire, nous sommes allés au conservatoire.
Nous sommes allés au conservatoire. Attention à votre langage, on l'a entendu, hein, nous avons des grandes dames ici, des ladies. Hein, donc on voit bien qu'effectivement cette prestance masculine à la féminité lui donne une sorte d'assise et qui est souvent le cas d'ailleurs quand on aime souvent une certaine masculinité chez les femmes. Je parle des hommes hétéros qui n'aiment pas nécessairement la petite chose toute féminine, mais au contraire des femmes qui ont une certaine présence. Et donc on voit bien que l'ambiguïté cette ambiguïté est aussi celle de Wilder, qui avait épousé une femme toute une très très belle femme, Audrey Wilder, donc qui était une ancienne actrice, mais qui était pas du tout une petite chose. Il y a des photographies qui les montrent tous les deux, qui sont d'Helmut Newton, y compris dans des postures un petit peu sadomaso pour rire, mais qui montrent bien quand même que c'est, que ce que Billy Wilder aimait chez les femmes, c'était quelque chose de tout à fait ambigu aussi. C'est en cela que ces films sont vraiment intéressants. C'est pas simplement des films, on va dire, gay-friendly. C'est pas ça le problème, hein. Je pense que ça joue à tous les niveaux sur les possibilités d'inversion, de goût, de dilection pour le même autant que pour l'autre.
Et ce sont vraiment des réflexions sur le genre et pas seulement, enfin je le dis pas seulement parce que notre discussion s'inscrit dans une semaine que nous consacrons au genre, c'est-à-dire que dans ce film notamment, Wilder montre à quel point le genre est quelque chose de construit, qu'il ne se réduit pas au sexe biologique mais que le masculin et le féminin sont des jeux, sont une construction sociale avec laquelle on peut prendre ses distances.
C'est notamment le cas, encore une fois, de la rencontre entre le personnage interprété par Jack Lemmon, donc là, Géraldine Daphney, et son futur mari, Joey Brown, quand ils arrivent en Floride, à l'hôtel, ce vieux milliardaire qui s'est marié déjà 7 ou 8 fois, dit-il, il ne sait plus, c'est maman qui tient le compte, il est fasciné justement par cette femme parce qu'il trouve que c'est une femme qui a vraiment du caractère et Jack Lemmon qui se fait draguer réellement pour la première fois à ce moment-là en tant que femme réagit brutalement et c'est en réagissant de manière masculine qu'il plaît davantage encore à ce milliardaire interprété par Joey Brown et ce personnage enfin cet acteur Joey Brown était un grand spécialiste des dragues dans les années 30 et 40. Et George Raft, qui joue le méchant, Spatz Colombo, était une des grandes folles de Hollywood avec George Cukor. Ça, il s'amuse beaucoup, Billy Wilder, dans ce film, en fait. C'est à double ou triple entente. C'est un peu ce que fait Howard Hawks avec Cary Grant, quand il s'amuse énormément sur la bisexualité de bien connue, enfin, désormais, en tout cas, de Cary Grant, mais qui, à l'époque, percé quand même dans les films, hein, dès les années 30, quand dans L'impossible Monsieur Bébé, alors qu'il est habillé avec une chemise de nuit, avec fanfreluche, et qu'une la tante de Catherine Hepburn lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue ?» Il bondit, exaspéré, en disant « I suddenly turn gay !» Donc ça apparaît, 1938, hein, ça apparaît comme ça, et dans l'année suivante, dans un autre film de Hawks, il y a une grande complicité entre le cinéaste et son acteur fétiche dans la comédie, dans le film sur la presse qui s'appelle La Dame du Vendredi, qui est une comédie du remariage. Là aussi, quand elle vient, Rosalind Russell, son épouse qui veut épouser, se remarier avec quelqu'un d'autre, ce qui n'arrivera pas évidemment, quand on est avec Cary Grant, on reste avec Cary Grant, quand elle lui parle de son futur mari, il le trouve tellement parfait qu'il dit « mais c'est moi qui aurais dû l'épouser ». Enfin, ça n'arrête pas, hein, donc on voit bien que Wilder est très proche de Hawks dans ces private jokes, mais qui disent quand même beaucoup de choses et qui nous permettent, nous, après un demi-siècle ou plus, de pouvoir reconstruire cette histoire un petit peu secrète de la sexualité
à Hollywood. Est-ce qu'il y aurait un genre des films sur le genre? Vous avez parlé de ces dragues, les films sur les dragues. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un genre de film sur les genres à Hollywood?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est réellement au contraire. Je pense que le drague touche à peu près tous les genres. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. On le trouve dans les comédies musicales, on le trouve dans les westerns, on le trouve évidemment dans le burlesque, puisque le travestissement est une des grandes catégories du burlesque. Et tous ont été, à part Groucho Marx, je ne vois pas d'exemple avec Groucho, mais dans Une nuit à l'opéra, Chico et Harpo sont des figurantes de la représentation du trou vert et sont réellement, réellement en drague. Mais Chaplin avec Charlot joue Carmen. Enfin, on pourrait là vraiment, Laurel et Hardy évidemment plusieurs fois. Je pense que ça affecte les genres eux-mêmes et notamment donc quand même malgré tout le genre burlesque et la comédie avant tout. Mais de genre réflexif, disons deuxième degré, j'en vois pas vraiment, sauf peut-être des films plus récents où il y a justement cette ambiguïté-là, dans notamment des films comme Victor Victoria, par exemple.
Qui serait beaucoup plus tard, en 82, de Blake Edwards, où là le travestissement et le jeu sur l'identité sexuelle, l'identité de genre, est clairement assumé.
Là, réellement, et là, on joue effectivement.
Et cette fois-ci, c'est une femme qui se déguise en homme.
Voilà.
Ça, c'est très intéressant.
Alors, attention, le drag se fait absolument dans les deux sens. Et il y a toute une histoire également de la femme habillée en homme depuis Shakespeare, mais notamment, effectivement, dans les comédies romantiques, des films, là encore une fois, très marqués, Cary Grant, Catherine Hepburn, George Cukor, des films comme Sylvia Scarlett, là où il y a un magnifique moment. C'est toujours à peu près le même costume que l'on a la fille aux cheveux courts déguisée en garçon. On retrouve cela également dans les voyages de Sullivan avec Veronica Lake et avec Joel McRae quand il se déguise en clochard et qu'il parcourt l'Amérique. Des tas de choses de ce genre apparaissent dans l'histoire du cinéma. Et là, donc, l'intérêt dans Victor Victoria, c'est qu'elle joue réellement sur cette identité. Elle passe pour être un homme. On croit que c'est une femme. Et finalement, ce n'est pas une femme, c'est un homme, et c'est finalement une femme. Il y a trois niveaux. C'est les trois niveaux impossibles d'après Platon, mais on les trouve ici. Quoi.
Alors, on va l'écouter. Victor Victoria.
Vous êtes en plein délire.
Plus bas, là-bas.
Tandis.
Plus bas. Tandis. Non, tu l'as reçu, Pochaliopu.
Si vous ne vous remettez pas dans votre lit.
Très bien, quand vous vous fâchez, votre voix descend. Restez en colère.
Mais
l'inspiration m'a visité.
Je vais chercher un docteur.
Victoria, ça
Tandis,
va marcher.
Vous savez bien que non.
Si vous m'écoutez, si vous faites exactement ce que je dis, dans 6 semaines, tout Paris sera à vos pieds. Les gens croient ce qu'ils voient. Et cet après-midi, André Cassel va rencontrer le travesti le plus génial de tout l'ancien continent. Tu parles à peine notre langue. Ta famille t'a renié quand elle a appris que tu étais homosexuel.
Toddy, tu as beaucoup
d'imagination. Nous nous sommes connus à Lodz, ce fut le coup de foudre et tu m'as suivi à Paris.
Ah, c'est...
Il y a quelque chose qui cloche.
Pas quelque chose, tout cloche. Une femme, se faisant passer pour un homme, se faisant passer pour une femme.
Ridicule.
Oh, complètement absurde.
En fait, c'est tellement absurde que jamais personne ne pourra
ce
le croire.
Ce qui ne t'empêche pas d'espérer qu'ils croiront tous au compte de... Comment il s'appelle ?
Krasinski.
Toddy, je ne sais pas comment agir en tant qu'homme.
Contrairement à la conception populaire de la manière d'agir d'un homme, il y a toutes sortes d'hommes qui agissent de toutes sortes de façons.
Ah, dire par rapport aux gestes féminins.
Je suis personnellement en relation avec une bonne douzaine d'hommes qui agissent exactement comme des femmes, et vice-versa.
Mais tout de même, il y a des tas de choses qui n'ont jamais été que masculines.
Cite-moi une.
Pisser en restant debout.
Oh, en vérité, il n'existe aucune loi stipulant que l'homme n'a pas le droit de s'asseoir.
Victoria est un film génial, Marc Serugello, il faut le dire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Black Edwards, 1982, Black Edwards à qui l'on doit la Panthère Rose notamment, The Party aussi avec Peter Sellers.
Breakfast at Tiffany's.
Avec un film, voilà, le diamant sur canapé comme on dit en français. Oui. Et là, il va très très loin dans les réflexions sur le genre, on l'a entendu, hein, Judy Garland qui dit « Je vais être une femme qui se fait passer pour un homme qui se fait passer pour une femme ». C'est exactement ce qui va se passer.
C'est exactement ce qui va se passer, y compris sur scène avec le dévoilement final à la fin de chaque numéro de Victor.
Nous dit le film que plus on va loin dans le travestissement, plus c'est crédible. C'est là où c'est génial, c'est que le genre est une reconstruction sur une construction qui paraît qu'on veut naturaliser, qui est déjà là, et qu'en fait qui dupe tout le monde.
Et c'est d'autant plus intéressant que le film, là aussi, est un remake de film allemand. C'est un film qui
décidément,
avait été
fait, ce sont les Allemands qui ont l'origine.
Mais là, c'est réellement, c'est pas comme le début des années 50, c'est 1930, c'est vraiment le Berlin décadent, c'est l'image qu'on a de cabaret, de choses comme ça. Et c'est là aussi, c'est un film remarquable, qui mériterait là aussi d'être revu. Et tout se passe comme si, effectivement, il fallait une certaine dose au sein d'une société de maturation de ces questions d'identité sexuelle pour qu'elles puissent apparaître au cinéma. 50 ans après, c'est sur la côte ouest, autour de gens qui sont Black Edwards, sa femme Julie Andrews, c'est vraiment, donc là, il y a tout un monde également qui va avec, il y a toutes les années 60 et 70 qui ont été californiennes, qui ont été quand même des moments de grande liberté sexuelle, c'est pas par hasard que Jacques Demy et Agnès Varda se sont installés là-bas en 1968, enfin on voit bien que les gens ont eu une grande liberté sexuelle, ce sont les années avant Sida, exactement à ce moment-là, et heureusement, donc on a eu cette version heureuse, je dirais, du drag et du jeu sur les identités à ce moment-là dans le film hollywoodien au début des années 1980. C'est un jalon important dans notre histoire, à mon sens.
Alors revenons à certains lame show et cette fois-ci
un autre jalon important,
n'est-ce pas, sur le bateau, le yacht. Alors c'est le personnage de Tony Curtis qui s'est déguisé en millionnaire parce qu'il a entendu que le personnage de Marilyn Monroe voulait épouser un millionnaire, donc il arrive.
Alors c'est Junior, voilà. Là c'est encore un travestissement, mais là cette fois-ci donc en gardant le sexe masculin, mais en allant quand même un tout petit peu vers l'ambiguïté, puisque il parle exactement comme Cary Grant. Et c'est une création tout à fait remarquable. Cary Grant a souvent été imité, y compris dans des dessins animés de Tex Avery. Enfin, c'est son jeu et sa diction notamment était réellement, encore une fois, une imitation classique, on pourrait dire. Mais Tony Curtis là le fait très très bien. Et c'est très amusant effectivement de voir ce parangon du charme masculin qui lui-même était bisexuel être utilisé à des fins de pure burlesque, mais en même temps un burlesque assez hot parce que c'est une scène où il est supposé être impuissant, donc c'est un grand gimmick, on va l'entendre,
mais juste précisons que l'inversion est poussée cette fois-ci au quatrième degré, parce qu'il va jusqu'à se payer le luxe de se laisser draguer, hein, en tant que drague, par Marilyn Monroe, puisqu'il prétend, il feint d'être impuissant. Écoutons-le.
Champagne. I don't mind if I do.
Well, down the hatch, as we say at sea.
Bon voyage.
You see, on Thursdays, I'm sort of lost around here.
What's on Thursday?
It's the cruise night off.
You mean we're alone on the boat?
Completely.
Vous savez, jamais je me suis trouvée seule avec un homme au milieu de la nuit, au milieu de l'océan.
Oh, c'est parfaitement sûr. Nous sommes à l'ancre. Ce navire est un submersible. Et le garde-côte a promis de m'appeler s'il voyait des icebergs au large.
Ce ne sont pas les icebergs, mais il y a des hommes qui profiteraient certainement d'une pareille situation.
Vous me flattez.
Évidemment, vous êtes un gentleman.
Oh, c'est autre chose. C'est que je suis inoffensif.
Inoffensif, comment ça?
Eh bien, c'est dur à expliquer, mais je ne sais quoi avec les femmes.
Quoi donc?
Elles me laissent froid, en quelque sorte.
En somme, vous êtes frigide?
Je serais plutôt une barrage mentale. Quand je me trouve avec une femme, je ne ressens aucune émotion.
Avez-vous essayé?
Si j'essaye, tout mon temps y est consacré. Tenez, rien.
Rien du tout?
Un froid total.
Oh, je me sens vraiment toute confuse.
Oh, ma chère, ce n'est pas votre faute. Ça tient au fait que quelquefois la nature joue un mauvais tour à un homme, tout va de travers à l'intérieur.
Oh, vous devriez voir un médecin, un grand médecin.
C'est ce que j'ai fait. J'ai passé 6 mois à Vienne, c'est le professeur Freud, à me faire psychanalyser. Et il y a eu les frères Maillot, les piqûres, l'hypnose, les bains d'eau minérale. Si je n'avais pas été si lâche, je me serais tué.
Oh, ne dites pas ça! Il doit bien y avoir une femme quelque part qui saurait.
Si jamais j'ai trouvé une femme qui saurait, je l'épouserai sans hésiter dans l'heure suivante.
Voulez-vous me faire plaisir?
Bien sûr, que voulez-vous?
Je ne suis peut-être pas le docteur Freud ou les frères Maillot, ni une ravissante balinaise, mais je ne pourrais pas essayer encore une fois.
Eh bien, si vous insistez.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h29, c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée au genre, au pluriel. Et pour l'occasion, c'est à certains lèmes chauds de Billy Wilder que nous consacrons cette émission, en compagnie du philosophe Marc Serrivello, qui enseigne les études cinématographiques et l'esthétique à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et l'auteur d'un ouvrage notamment intitulé « Fondus enchaînés, essai de poétique du cinéma » publié au Seuil. Devinez quel sera le titre du second volume de Fondus enchaînés. Je vous l'annonce mille. Drôle de genre, ça paraîtra dans un an, m'avez-vous dit, Marc Serrivello, toujours au Seuil. Scène mémorable sur le yacht, Marc Serrivello, quand même, où là tout est inversé et juste après l'extrait, là on a dû s'arrêter avant, Marilyn Monroe va quand même jusqu'à remettre des bûches dans le feu pour essayer de réchauffer ce corps frigide.
Absolument, elle a une robe absolument invraisemblable, à peu près l'équivalent de celle qu'elle a portée avec, pour le Happy Birthday, Mr. President, pour exactement au même moment, pour l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy. Et c'est une robe absolument pousse au meurtre et elle embrasse avec une fougue parce qu'elle apparaît. Ça, c'est des idées à la Billy Wilder. Comment fait-elle pour embrasser aussi bien? Elle a donné des baisers pour la goutte de lait. Et donc, elle est très entraînée. C'est une œuvre caritative. Hein. Et chaque fois qu'elle embrasse, mais le avec le plus d'ardeur possible, ce pauvre, si l'on peut dire, Tony Curtis, ses lunettes sont complètement embuées. Et il parle, alors, donc il faut là aussi le dire, il parle avec l'accent de Cary Grant. C'est évidemment la version française. Alors, on ne pouvait pas faire autrement, évidemment, pour donner à entendre le dialogue, mais c'est vraiment un parfait pastiche de Cary Grant, et ça rend la scène encore plus savoureuse pour celui qui arrive à l'entendre. C'est un moment très 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 réussi et qui n'est que la moitié de la séquence, puisque par un travelling filé très rapide, on se retrouve de l'autre côté au moment sur Terre. Là, nous sommes sur un yacht. Et nous nous retrouvons sur Terre, où, à ce moment-là, donc, a lieu une scène de séduction quand même très importante, puisque le milliardaire et
le
Daphné,
vrai,
le vrai, ouais, le Joey Brown et Jack Lemmon en Daphné, donc, vont finalement tomber amoureux. Il va y avoir une demande en mariage autour d'une scène de tango mémorable. C'est la même séquence. Là, il y a un travail de montage parallèle absolument délectable, qui montre bien quand même que la comédie est un genre qui n'est pas simplement lié à sa racine théâtrale, mais qui est réellement proprement cinématographique ici. Là, on a un exemple très caractéristique de montage parallèle avec les deux personnages qui suivent leur histoire amoureuse, qui sont chacune des histoires, effectivement, de travestissement. C'est aussi cela, hein, certaines choses. C'est pas simplement des hommes qui se déguisent en femmes. Ce sont des histoires qui sont liées, effectivement. On peut parler de goût baroque pour le travestissement, pour le royaume des apparences. On peut dire ce qu'on on peut
oui,
interpréter.
La phrase qu'on a à l'esprit toujours en regardant le film, c'est appearances can be deceptive. Hein, c'est
voilà,
ça, c'est ce jeu avec des apparences
c'est le
en
jeu
permanence.
Avec les apparences en permanence. C'est pas simplement, encore une fois, dans le travestissement sexuel, qui était absolument essentiel, évidemment.
Non, parce que le travestissement n'est pas simplement sexuel, c'est aussi, vous l'avez très bien dit en décrivant ces scènes parallèles de séduction, le travestissement du désir lui-même.
Voilà.
Que ce soit Jack Lemmon dans le train au tout début lorsqu'il est déguisé en fille et qu'il se retrouve collé
absolument
au corps de Marilyn Monroe, qu'il tremble et qu'il transpire tellement il n'arrive pas à se retenir, il se répète « I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl » pour s'interdire
exactement
de lui sauter dessus.
Et il dit « I'm a boy » après.
Et après, et voilà, effectivement. Que ce soit le millionnaire, on l'a vu, enfin Tony Curtis déguisé en millionnaire qui fait semblant d'être frigide alors que de toute évidence il ne rêve que d'une chose, c'est de lui sauter dessus, enfin de sauter sur Marilyn Monroe. Voilà, c'est là où c'est très très fort, c'est que c'est le désir lui-même qui ne peut pas s'avouer, qui est retenu et contenu et qui du coup crée chez le spectateur une situation d'attente extrêmement forte.
Absolument. Et c'est vous l'avez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, c'est l'idée. C'est cette idée qui fait que le spectateur de cinéma, à partir du moment où il voit cette séquence qui est dupliquée, hein, encore une fois, j'y insiste, c'est un tandem, c'est un couple, ça permet la création de nouveaux couples, au moins deux couples, donc quatre acteurs, alors que souvent dans les films de travestissement ou de drague, c'est une personne qui est travestie. Et donc cela crée d'autres attentes chez le spectateur. Alors, on a évoqué Cary Grant, il a certainement incarné un des travestis les plus célèbres à l'écran, dans un film qui s'appelle « Aller coucher ailleurs », mais dont le titre original est beaucoup plus parlant, évidemment, I was a male war bride. J'étais une épouse de guerre masculine. Et donc, il est obligé d'être travesti en femme pour pouvoir, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, aller voir sa Ça tendrait cher. Et c'est et là on a d'autres attentes qui sont liées à la comédie sentimentale, à l'échec d'un mariage possible toujours. Alors que là c'est beaucoup plus fou. Il y a une sorte de multiplication de on est les couples s'aiment et donc à partir de là effectivement on a d'autres types d'attentes qui peuvent aller. Et ça, c'est comme cela qu'on arrive à nous faire gober la séquence terminale.
Et alors, avant d'en venir à la séquence terminale, le film se hisse encore d'un échelon, si c'était possible. Mais oui, ça l'est parce que, avec ce jeu du désir, à ce jeu du désir vient s'imposer l'amour sans doute sincère et la question du mariage qui paraît complètement coulée de source, y compris entre personnes du même sexe. Écoutez.
Aïe. Quoi? Là, là. Asgood m'a demandé ma main le mois prochain, nous nous marions. Là, 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 là.
Mais voyons, tu ne peux pas te marier avec Asgood.
Pourquoi? Il passe son temps à épouser des filles. Ah là 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 là.
Mais tu n'es pas une fille, tu es un homme. Pourquoi un homme en épouserait-il un autre?
Pour être tranquille. Ah!
Il n'écoute rien, Jerry, tu devrais te coucher, tu es malade.
Mais vas-tu finir de me traiter comme un gosse? Je ne suis pas fou, je sais que ça pose un problème.
Tu parles que ça en pose.
Sa mère, il nous faut son consentement, mais ça ne m'inquiète pas parce que je ne fume pas.
Tu n'es pas dans ton état normal, Jerry, comment vas-tu t'en sortir?
Oh, ça ne durera pas, je le sais, Joe. Je lui dirai la vérité au moment voulu.
Et quand cela?
Tout de suite après la cérémonie. Ah. Alors je ferai une demande en divorce, il me servira une jolie pension, bien sûr, et chaque mois je toucherai mon chèque et en avant la musique.
Jerry, écoute-moi.
Quoi?
Écoute-moi, il y a des lois, des conventions. Ça ne se fait pas, ces choses-là.
Chut, Joe, mais c'est peut-être bien ma dernière chance d'épouser un milliardaire.
Écoute, Jerry.
Oui.
Jerry, veux-tu un bon conseil? Il faut oublier cette histoire. Dis-toi bien que tu es un garçon. Tu es un garçon.
Je suis un garçon?
Voilà, tu es un garçon.
Un homme qui se déguise est comique. Un homme qu'on croirait déguisé est comique encore. Par extension, tout déguisement va devenir comique. Non pas seulement celui de l'homme, mais celui de la société également. Vivant en elle, vivant par elle, nous ne pouvons nous empêcher de la traiter comme un être vivant. Risible sera donc une image qui nous suggérera l'idée d'une société qui se déguise, et pour ainsi dire, d'une mascarade sociale. Or, cette idée se forme dès que nous apercevons de l'inerte, du tout fait, du confectionné à la surface de la société vivante. Le côté cérémonieux de la vie sociale devra donc renfermer un comique latent, lequel n'attendra qu'une occasion pour éclater au grand jour. Chacun sait avec quelle facilité la verve comique s'exerce sur les actes sociaux à forme arrêtée, depuis une simple distribution de récompenses jusqu'à une séance de tribunal. Autant de formes et de formules, autant de cadres tout faits, où le comique s'insérera. Mais ici encore, on accentuera le comique en le rapprochant de sa source, de l'idée de travestissement qui est dérivée, il faudra remonter alors à l'idée primitive, celle d'un mécanisme superposé à la vie. Alors évidemment, Marc Sérigello, cette scène a un écho tout particulier dans le contexte actuel, disons, de la loi dite pour le mariage pour tous, ainsi que le texte de Bergson, qui sans doute explique le lien entre les deux. Il y a un homme qui se travestit, ça fait rire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le même procédé qui est à l'œuvre dans la société elle-même, qui, quand elle est trop figée et qui n'arrive pas à remettre en question certains cadres, pourrait aussi, c'est une façon de le voir, donner à rire?
Oui, absolument. Là, on le voit très bien avec tous les avis, les forts avis doxiques et toxiques, je les appellerai comme ça, à ce propos. Et sur la question de la représentation, effectivement, du mariage, c'est un film qui consonne avec les débats actuels. Ce qu'il a envie de faire, c'est de se marier. On pourrait même dire, par rapport au texte de Bergson, là, cette fois-ci, épouser un milliardaire, c'est un schéma. Qui existe, ça ne choque personne. Alors à partir du moment où on est dans le cadre d'un mariage entre deux personnes consentantes du même sexe et de la possibilité de ce mariage et que l'on regarde effectivement les possibilités qui sont évoquées par le film de Wilder, c'est un film qui dit l'avenir. C'est un film qui dit très clairement
parce
l'avenir.
Il s'en fiche complètement d'épouser un homme. Hein. C'est ce qu'elle lui dit. Mais c'est un homme, tu ne peux pas l'épouser. Il dit mais je m'en fiche. C'est un millionnaire.
Voilà.
C'est
voilà.
Ça, la question, donc, la nature du sexe de la personne qu'il veut épouser est secondaire.
Voilà, exactement. Exactement. C'est en cela que la comédie est certainement le genre le plus intelligent. Entendons bien le terme. C'est celui qui travaille le plus vite sur la vitesse de la pensée, la vitesse de l'esprit. Forcément, dans les répliques, les situations font que il y a une vitesse de la pensée dans la comédie qui n'est pas par définition celle du drame, même du film d'action où les choses se font. L'action va vite, mais pas forcément la pensée qui va avec. Et tandis que là, effectivement, on arrive à dire un certain nombre de vérités qui ne sont pas encore actualisées dans les faits, mais qu'ils seront. Et c'est en cela que le film est en avance sur son temps. C'est pas simplement parce qu'il montre des hommes qui ont la possibilité de se marier. C'est que dans le détail, on voit bien que ça devient une quasi-nécessité et que quand ils se retrouvent sur le bateau à la fin et que le personnage de Daphné donc redevient de Jerry et fait ce que lui a dit de faire son copain, c'est-à-dire de dire la vérité quand même. Eh bien, cette vérité, finalement, qui est simplement une vérité de dévoilement, qui est une conception finalement assez traditionnelle de la vérité, eh bien, cette vérité de dévoilement fait place à une autre échelle de vérité, qui est une vérité de substitution. À partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a aucun problème. C'est la perfection n'est pas de ce monde. C'est la traduction, le mot de la fin. Ouais. La perfection n'est pas de ce monde. La correspondre à une identité sexuelle n'est pas exactement ce qui est demandé. Vous n'êtes pas une femme, chère madame. Eh bien, écoutez, c'est comme si vous n'étiez pas milliardaire, ou si vous n'étiez pas philosophe, ou si vous n'étiez pas... Ce n'est qu'une qualité, et cette qualité peut aisément, effectivement, être remplacé par une autre ou par rien.
J'aime que vous mettiez sur le même plan être milliardaire et être philosophe. On va écouter l'extrait de la fin. Ce sont les deux dernières minutes avec l'escalade, en fait. Il va se révéler, montrer qu'il n'est pas blonde. En fait, il fume. Et finalement, la vérité sur son sexe, vous l'avez dit, est la dernière réplique mémorable. Écoutez.
Josephine, gonna be a bridesmaid?
Well, pleased to meet you.
Come on.
She's so eager.
Let's go.
You don't want me, sugar. I'm a liar and a phony, a saxophone player, one of those no good nicks you keep running away from.
I know, every time.
Sugar, do yourself a favor. Go back to where the millionaires are. The sweet end of the lollipop, not the coleslaw in the face, the old socks and the squeezed out tube of toothpaste.
That's right, pour it on. Talk me out of it.
I called Mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace.
Yeah, that's good. I can't get married in your mother's dress. She and I... We are not built the same way.
We can have it altered.
Yeah, no, you don't. Osgood, I'm gonna level with you. We can't get married at all.
Why not?
Well, in the first place, I'm not a natural blonde.
Doesn't matter.
I smoke. I smoke all the time.
I don't care.
I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
I forgive you.
I can never have children.
We can adopt some.
But you don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.
Nobody's perfect, Marc Sérigello. Comment vous... Cette dernière phrase, on a dit tellement de choses à propos de cette dernière phrase qui aurait été en fait un essai puis qui est devenue définitive. Quelle est votre idée sur la question ?
Oh, je pense que c'est en tâtonnant, comme toujours, que Wilder et son co-scénariste arrivent à trouver ça. En revanche, ce qui est très important, ce qui résonne vraiment bien aujourd'hui, c'est que je ne peux pas avoir d'enfant, tant pis, nous en adopterons. C'est la problématique de l'adoption qui apparaît immédiatement.
Qui est évacuée tout de suite, d'ailleurs.
Qui apparaît juste avant problème, le Nobody's Perfect, quand même. Hein. C'est là, c'est, le fait qu'il fume, donc ça, on a... Effectivement, maman n'aime pas les femmes qui fument, hein, donc c'est une... C'est une phrase qui revient très souvent dans le film, y compris quand il évoque qu'il est en, que dans la séquence que nous avons écoutée tout à l'heure, où il évoque qu'il est fiancé et que effectivement Joe essaye de le cadrer en lui rappelant qu'il est un homme. Donc il y a des détails factuels qui sont liés à ce que nous avons déjà entendu dans le scénario, des rimes scénaristiques. Tout ça, c'est la construction, c'est la cuisine, très intéressant dans la production du rire, mais c'est la cuisine. La problématique de l'adoption, elle fait immédiatement avant la, celle de l'absence de perfection liée. Alors, c'est intéressant que ce soit l'homme en plus qui n'est pas... Voilà, donc là encore, je pense que Wilder s'amuse encore une fois avec ce jeu. La perfection, ce serait... La perfection absolue, ce serait effectivement qu'il soit une femme. Alors, est-ce que... Je pense pas qu'il faille faire venir des considérations type Aragon, etc. Mais il est évident aussi quand même que la part féminine de l'homme est quelque chose qui est à l'horizon de ce film. C'est absolument incontestable.
On y entend aussi le fait, là pour le coup, d'évacuer de manière définitive, puisque c'est la fin du film, la question du sexe biologique qui reste une fois pour toutes secondaire.
Voilà.
C'est un film de mariage. Ils vont sans doute
se marier.
C'est
un film de mariage où le sexe a beaucoup moins d'importance qu'on ne croit. C'est l'idée. C'est un mariage conversation, si on veut parler comme Stanley Cavell à propos des comédies du remariage. C'est un mariage où effectivement le jeu, ce sont des comédies de l'égalité. Donc ce sont là encore une fois, c'est pas l'égalité entre un homme et une femme, c'est une égalité peut-être encore plus absolue puisque c'est l'égalité entre deux hommes. Donc il y a l'idée de la conversation, de la conception démocratique de l'égalité, pourquoi pas, et le fait d'assumer effectivement ce qu'on est, donc ce que l'on pense être est beaucoup plus important effectivement que l'identité sexuelle, disons toute bête.
C'est le on finit sur le mariage et sans doute aussi, alors je sais pas quel est justement votre avis sur la question, le mariage comme intérêt bien compris de part et d'autre, le millionnaire a envie d'épouser quelqu'un parce qu'il se sent seul et que de toute façon peu importe homme ou femme, c'est un intérêt bien compris. Et de l'autre côté, peut-on dire qu'il y a des sentiments de la part de Jack Lemmon
Tout à fait, ouais. Moi je pense. Oui, alors là
il est amoureux à la fin.
Voilà, je pense que c'est plutôt y être, c'est pas en être, mais c'est plutôt y être. Et là, il y est complètement, comme il y était auparavant. C'était peut-être les vapeurs de l'alcool, c'était peut-être la danse, etc. Mais là, il y est réellement. Donc il y a, à ce moment-là du film, alors ensuite, effectivement, on peut toujours imaginer la suite de certaines mêmes choses. C'est pas ça un grand intérêt, mais pourquoi pas, après tout. Ça pourrait être, effectivement, si les scénaristes d'aujourd'hui cherchent des idées, ça peut être à explorer. Non, plus sérieusement, l'idée, effectivement, de ce mariage, à partir du moment où le désir homosexuel n'est pas absolument affirmé, donc pose des... Non pas des problèmes, mais des séries de questions, effectivement, qui montrent encore une fois que ces questions de pure sexualité ne sont pas absolument essentielles. Ça me semble être quand même un des moteurs du film. Ça se passe, mais c'est la comédie qui peut le faire encore une fois, parce que ça se passe dans la tête, la comédie, vraiment. Et donc on n'est pas, c'est le genre le plus philosophique, c'est le genre, ce que je disais tout à l'heure, c'est le genre le plus noétique, le plus philosophique. Ça se passe à la vitesse de la pensée, et à partir de là, effectivement, c'est les parties élevées, je dirais, de l'âme, pour parler comme Platon, qui sont concernées plutôt que les besoins stomacaux. Et c'est aussi une des idées. C'est ce qui fait que quand on sort d'une salle de cinéma où on a vu ce film, ou quand on vient de voir ce film d'une autre manière, on a avec soi effectivement un bien plus grand appétit du monde sous toutes ses formes, y compris sexuelles, mais en relativisant effectivement les parties qui sont parfois les plus frustrantes de l'existence, quand justement on est plutôt dans la misère de la sexualité.
I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stocked my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love.
I'm Through With Love, c'est avec la voix de Marilyn Monroe que nous nous quittons. Marc Serugello, un grand merci à vous d'être venu nous parler de Wilder aujourd'hui.
Voilà, il faudra savoir ce qu'on entend par I'm Through With Love, justement.
Voilà, ouais, ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission, qui sait, cette fois-ci plus sur l'amour, l'amour du genre, l'amour du cinéma. Vous êtes un amoureux du genre et du cinéma, Marc Serugello, c'est pour ça que j'envoie la lecture de votre ouvrage Fondus Enchaînés, essai de poétique du cinéma qu'on trouve au Seuil. For I must have you or no one, and so I'm through with love. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Vous n'êtes pas trop déçue que dans certains Lame Show, ils changent le nom de Géraldine en Daphné?
Si, j'étais terriblement vexée.
Bon, on va vous appeler si vous voulez Daphné Mosna-Savoie.
Moi ça me va très bien, ça va aussi.
Alors de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Beaucoup moins drôle, qu'est-ce que la politique d'Anna Arendt s'est parue aux éditions du Seuil. Qu'est-ce que la politique, donc, de la philosophe Anna Arendt, est un texte peu connu, en tout cas comparé à d'autres de ses textes, comme Les origines du totalitarisme ou encore comme Sa condition de l'homme moderne. Alors ceci s'explique parce que cet ouvrage, Qu'est-ce que la politique, n'est pas un texte composé d'un bloc, d'une seule intention, même si d'ailleurs au départ ça devait être le cas effectivement. Arendt devait rédiger un grand ouvrage sur la politique et finalement ce sera un ensemble de textes écrits au début des années 50 et que les éditions du Seuil publie à nouveau dans une nouvelle traduction et en y ajoutant en plus des textes encore inédits en français. Alors c'est vrai, comme je le disais, cet ensemble de textes est moins connu que d'autres œuvres d'Arendt et il est constitué d'une dizaine de textes bien distincts, mais le propos a bien un seul sens, celui de dire ce qu'est la politique, de répondre à cette question de l'essence de la politique. Et cette question pose bien le problème qu'Arendt pose face à la politique, c'est comment la définir. Mais d'abord, ce qui naît de la rencontre entre les hommes, donc la politique, peut-il être défini absolument et de manière permanente? Et en posant ces questions, on découvre au fur et à mesure de ces textes qu'Arendt procède avant tout à une critique de la philosophie et de son approche de la politique. Elle puise à la fois dans la tradition et dans l'expérience contemporaine et ainsi elle ne veut pas dire, comme Aristote l'a fait, que l'homme est par essence politique, qu'il est naturellement politique. Les hommes sont trop différents pour ça, pour être voués a priori à vivre ensemble. Par contre, et c'est la grande idée d'Arendt ici, on peut dire que c'est de cette différence que naît la nécessité de la politique. Pluralité et liberté sont ainsi les deux clés de l'essence de la définition de la politique et donc c'est grâce à ces textes qui font le lien entre les deux grandes œuvres d'Arendt que j'ai citées au départ, Les origines du totalitarisme et La condition de l'homme moderne, que se dégage peut-être ainsi le sens d'une véritable philosophie politique.
Merci Géraldine, le livre est déjà sorti ?
Le livre est déjà sorti et c'est paru au Seuil, ça s'appelle Qu'est-ce que la politique ? Et c'est d'Anna Arendt.
Merci beaucoup, les nouveaux chemins touchent à leur fin. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales et surtout cinématographiques concernant l'émission du jour. Et puis vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. On se retrouve demain pour la suite de cette série entre philosophie et cinéma. Demain, Gran Torino, le film de Clint Eastwood.